dans l'actualité des idées aujourd'hui, la souveraineté est-elle encore une affaire d'État? Lui défend dès les premières lignes de son ouvrage Un patriotisme républicain, seul rempart efficace contre les régressions identitaires toujours possibles. Invité Jean-Pierre Chevènement, ancien député pendant 30 ans, ancien maire de Belfort jusqu'en 2007, ancien sénateur de 2008 à 2014, ancien ministre de la Recherche puis de l'Éducation nationale, puis de la Défense sous François Mitterrand et ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac et Lionel Jospin. À 80 ans, il relie un demi-siècle de vie politique à travers textes et discours qu'il a compilés dans un ouvrage somme, Jean-Pierre Chevènement, Passion de la France, édité chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, réunit en grande thématique la nation et la République, l'État et le citoyen, l'Europe et la relation franco-allemande ou encore le défi de l'islam radical. On y apprend beaucoup sur lui, les valeurs qu'il a défendues, républicaines avant tout, l'action qu'il a menée quand il était aux responsabilités, mais aussi sur nous, puisqu'à travers ses engagements dans l'histoire, il revisite la Maison France et les arcanes de la Ve République. Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Souverainiste de gauche et républicain, a-t-on l'habitude de dire à votre sujet, vous posez d'emblée ces quelques mots, un républicain de bataille, donc un socialiste. Le dernier, peut-être, quelle est votre conception particulière de la République?
Pour moi, la République est au-dessus de la droite et de la gauche telles qu'elles sont devenues. C'est ce que j'ai dit en 2001, et la suite vous la connaissez, le système a fini par turbuler, nous avons une situation originale avec Emmanuel Macron, et puis une gauche et une droite qui ne sont plus aux affaires. Donc, pour moi, il y a toujours un idéal républicain exigeant, mais qui implique d'être bien compris. Il faut revenir toujours à l'idée de la souveraineté populaire, du peuple constitué de citoyens encore, donc une définition du peuple qui est essentiellement à travers la citoyenneté. Et ce sont ces citoyens ensemble qui doivent déterminer ce qu'est leur commun intérêt, leur intérêt général. Donc ça suppose des citoyens formés, éduqués, ça suppose l'école publique, laïque, ça suppose un champ politique dans lequel les gens peuvent s'écouter, argumenter, progresser ensemble et s'aimer, pourquoi pas. C'est ce défaut d'amitié civique que je pointe malheureusement dans la société française actuelle, avec une crise du civisme qu'il faudra remonter parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de refaire un peuple de citoyens.
Mais donc la République doit être d'abord interprétée pour vous comme un cadre ou comme un ensemble de valeurs?
Pour moi, c'est les deux. C'est à la fois un cadre conceptuel, nous ne sommes plus à l'époque du droit divin. Il n'y a pas, je dirais, une légitimité hors des nations et des peuples. Hein. Mais en même temps, il y a un corps de valeurs, de principes qui ont été énoncés pour l'essentiel dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui par conséquent permet l'expression de la volonté populaire, mais compte tenu de ce que sont ces grandes valeurs.
Alors vous êtes passé par les partis, Jean-Pierre Chevènement, la SFIO, le Parti Socialiste, puis le Mouvement des Citoyens que vous avez fondé. Vous êtes d'abord fils d'instituteur, passé par l'ENA, un enfant de la République, né en 1939. Ça veut dire que la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez vécue, petit. Vous vous en parlez comme d'un désastre inouï, mais dont j'étais loin encore de mesurer la profondeur quand vous vous êtes engagé en politique. Comme ce recueil de textes et de discours de vous, sur 50 ans, est aussi un retour aux sources, comment éclaire-t-il la suite?
Alors, c'est à la fois un parcours sur 50 ans, et qui s'enracine en effet dans les événements traumatisants que j'ai vécus quand j'étais petit, dans mon petit village occupé, avec les maisons de ma grand-mère incendiées, mon père prisonnier, et le tête-à-tête que j'ai eu avec ma mère dans les 6 premières années de ma vie. Donc ce poids oppressant de l'occupant, qui en plus avait trouvé moyen de loger au-dessus de ma tête, puisqu'ils avaient réquisitionné l'étage de la petite école où nous étions. Et j'ai évidemment ce souvenir, qui n'est pas que traumatisant, parce que je me souviens que ces soldats allemands m'offraient des oranges que ma mère m'avait interdit de manger. Évidemment, j'ai bravé l'interdit et je me suis aperçu que ces Allemands n'étaient peut-être pas aussi méchants que ma mère le prétendait. Mais passons sur cette anecdote. Le sentiment d'une France enfoncée, dépréciée, a marqué mon enfance et mon adolescence. Et je n'ai rien trouvé de plus motivant, finalement, que d'aider à la redresser. Madescence et De Gaulle ont été les deux icônes de mon adolescence. J'ai cru qu'à travers eux, la France pourrait sortir du bourbier dans lequel elle se débattait à l'époque de la 4e République. Et puis, la suite en a découlé, la guerre d'Algérie, que j'ai faite avec mes choix fondateurs de la suite. Et puis, ce détour par le Parti Socialiste pour construire l'Union de la Gauche. Il se trouve que j'étais à l'origine du Parti Socialiste d'Épinay, un de ceux qui l'ont refondé, chargé de faire son programme, et bien entendu de l'appliquer par la suite. Donc c'est une histoire instructive, et je pense que la comprendre donnera des clés pour les jeunes générations, donnera les outils nécessaires pour reconstruire non seulement la gauche, mais la droite, la France, notre République. Disons qu'il faut comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Et il me semble que ces textes non censurés, qui sont les moments essentiels de mon expression sur 50 ans de vie politique, peuvent aider les générations nouvelles à se frayer elles-mêmes un chemin, à inventer, par exemple, une nouvelle offre politique, comme j'ai essayé de le faire en mon temps.
Et elle semble nécessaire aujourd'hui. On va y revenir. Sur ces grandes figures qui vous ont guidé, vous avez ces mots pleins de reconnaissance à l'égard du général de Gaulle. Tout Français ne peut rester que reconnaissant à de Gaulle d'avoir pensé la résistance longtemps à l'avance et de l'avoir magnifiquement conduite jusqu'à la victoire, car c'est à lui et à une minorité de héros que la France, moralement, doit d'avoir survécu. Une autre figure qui vous a accompagné longtemps, c'est celle de François Mitterrand. Sur le rôle qu'il a pu avoir pendant la guerre, sous l'occupation, vous écrivez « Le parcours de François Mitterrand pendant l'occupation reflète en les amplifiant les mouvements qui, dans ces années terribles, ont agité l'âme du peuple français, d'abord dans sa majorité, pétainiste de résignation, puis bientôt résistant. Il résume toute l'ambivalence d'un peuple assommé par une défaite sans précédent dans son histoire. » Est-ce que cette ambivalence, au-delà de l'anecdote sur les oranges, elle vous a aussi travaillé, Jean-Pierre Chevènement ? Parce qu'on sent que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a été un marqueur dans votre engagement politique. C'est vraiment ce qui a constitué
pour moi, il
n'y
a pas eu d'ambivalence, parce que ma mère était vraiment tout à fait dressée contre ceux qu'elle appelait les boches. Et il y avait cette réaction viscérale qui a dominé mon enfance. Et dans ma famille, je peux dire que nous savions très bien qui était l'ennemi. Donc ça, pour moi, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Et par conséquent, je ne ressens pas cette ambivalence. Mais je comprends François Mitterrand, mais je le comprends humainement à travers les épisodes qu'il a vécu. Il est né l'année de Verdun en 1916. Il a combattu en 1940. Il a été blessé, fait prisonnier. Il a cherché ensuite méritoirement à s'évader, mais je comprends que c'est un homme blessé, un homme qui me confiera, je rapporte cette anecdote en 1979, vous savez Jean-Pierre, nous sommes d'accord sur tout, sauf sur un point, je ne crois pas qu'à notre époque, hélas, je souligne le hélas, la France puisse faire autre chose que passer à travers les gouttes. Et je pense que c'était une certaine conception de la France qui fait que nous regardions quand même toujours ce qu'allait être la position des États-Unis, la position de l'Allemagne, mais nous oublions ce que devait être la position de la France, moralement s'entend.
François Mitterrand qui a beaucoup œuvré pour la relation franco-allemande, comme Emmanuel Macron aujourd'hui, qui croit en ce couple franco-allemand pour en faire l'un des moteurs de l'Europe, d'une relance en tout cas du projet européen. Vous la qualifiez comment, vous, cette relation que la France a historiquement avec l'Allemagne? Est-ce qu'elle vous paraît équitable ou au contraire complètement déséquilibrée, comme l'a encore souligné récemment l'essayiste Coralie Delaune?
Elle était déséquilibrée en faveur de la France, quand la France a tendu la main à l'Allemagne en 1950, Robert Schuman, Hein, et aujourd'hui, par le jeu de la réunification, de l'implosion de l'Union soviétique, de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, eh bien, cette relation s'est, je dirais, déséquilibrée dans un autre sens. La puissance qui domine l'Europe aujourd'hui est celle de l'Allemagne, qui est à la fois centrale et économiquement prépondérante. Donc nous sommes en situation difficile. Pour autant, la France a encore un certain nombre d'atouts, essentiellement diplomatiques et militaires, que l'Allemagne demande d'ailleurs à partager, en mutualisant le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Disons que la France a éludé cette demande, qui d'ailleurs ne serait pas juridiquement praticable. Alors, comment penser la relation franco-allemande ? Emmanuel Macron a fait des avances à l'Allemagne. Il s'est mis dans les clous de Maastricht. Il attendait un retour. Ce retour, il faut bien le dire, n'est pas venu. C'est à mon avis un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron. Car après les élections allemandes, Angela Merkel ne répond pas positivement à cette idée d'une relance contracyclique d'un budget de la zone euro. Et elle ne le peut plus parce que la vie politique allemande rend l'Allemagne beaucoup plus difficilement gouvernable. Donc cette occasion a été ratée, je dirais, par la faute de l'Allemagne, hein, puisque Emmanuel Macron faisait une proposition qui, à mon avis, avait du sens. Aujourd'hui, il doit passer à une nouvelle étape de son quinquennat et par conséquent, repenser l'Europe, repenser la construction européenne d'une manière où, d'une manière telle que la France puisse y retrouver ses marques. J'aurais quelques propositions à lui faire, c'est de penser l'Europe dans une autre dimension géographique, c'est-à-dire jusqu'à la Russie, parce qu'il n'y a pas d'Europe qui tienne la route au XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine si elle n'inclut pas la Russie, hein, qui ne compte que 147 millions d'habitants, il faut le rappeler. Donc on surestime énormément la puissance de la Russie.
Vous racontez d'ailleurs dans cet ouvrage votre rencontre avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
C'était tout à fait au début de la crise ukrainienne et j'ai esquissé avec lui les grandes lignes du format de Normandie. Un mois plus tard, Vladimir Poutine est venu en Normandie pour les cérémonies commémoratives et il y a eu ce quadrige improbable entre le président de la République française, la chancelière allemande, et puis le président russe et le président ukrainien. Disons que malheureusement, ça n'a rien donné, faute de réelle volonté politique. Mais c'est grand dommage, disons que j'ai essayé.
Alors en 1971, tout avait pourtant bien commencé.
Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Alors vous revenez longuement dans cet ouvrage, Jean-Pierre Chevènement, sur l'influence du CRS et des études que vous avez pu mener dans le Parti Socialiste pendant et après le congrès d'Épinay. À ce moment-là, François Mitterrand parle de révolution, parle de la nécessité de rupture, de rompre avec l'ordre établi pour être socialiste. La promesse n'a pas été tenue et la gauche semble, à vous lire, payer aujourd'hui encore la facture d'erreurs commises dès 83 avec le tournant de la rupture. Vous écrivez « Ces choix libéraux l'ont conduite dans le mur ». Ces choix européistes lui ont mis la corde au cou. Ailleurs, vous écrivez, donner la priorité à cette Europe-là, comme l'a fait à partir de 83 François Mitterrand, c'est se vouer pour longtemps et peut-être pour toujours à l'impuissance. En 83, les socialistes ont donné congé à la nation républicaine. Ce fut leur plus grande erreur. Sans cette conversion libérale et européiste, la gauche et avec la France auraient pu être sortis d'affaires.
Je pense qu'il y avait un autre chemin, qui était celui d'une conversion républicaine, de préserver l'orientation qui avait été donnée au Congrès d'Épinay en l'accommodant à l'environnement extérieur, parce que évidemment Reagan, Thatcher étaient au pouvoir, et puis Kohl en Allemagne, c'était difficile, mais on aurait pu mettre en œuvre une stratégie de politique industrielle qui aurait préservé notre tissu économique, quand on songe que nous avons perdu la moitié de notre industrie, que depuis l'an 2000, l'Allemagne a vu croître sa production industrielle de 36%, alors que la France a vu décliner la sienne de 3% et l'Italie de 16%. Donc quand on voit l'influence de ces choix qui s'enracinent loin dans le passé, quand on voit les conséquences, on est bien obligé de se demander s'il y avait un autre chemin. Et certainement, il y avait un autre chemin.
Mais parce qu'à vous lire aussi, Jean-Pierre Chevènement, pardon, notamment sur la question européenne, on sent qu'à vos yeux, le verre était dans le fruit depuis longtemps. Vous écrivez, me faisant archéologue de l'idée européenne, je m'étais avisé depuis longtemps déjà que l'Europe communautaire, pensée en fait dès 43 par Jean Monnet à Alger, était faite en réalité pour reléguer les nations à une situation subordonnée d'acteurs contraints et résignés.
Oui, ce que je reproche à Jean Monnet, c'est d'avoir pensé l'Europe en termes de marché, comme si l'homme était l'homo economicus et pas le citoyen. Mais le citoyen, il s'exprime dans le cadre de la nation, pour que son expression puisse être une expression démocratique, parce qu'il faut un sentiment d'appartenance assez fort pour que la minorité accepte la loi de la majorité. Ceci n'est possible que dans le cadre de la nation. Donc, je pense qu'il y a une erreur conceptuelle dès le départ chez Jean Monnet, qui fait qu'il se heurte à De Gaulle, qu'il appelait l'inspirateur, mais l'inspirateur d'une construction européenne dans laquelle De Gaulle ne se reconnaissait pas vraiment. De Gaulle avait pensé une Europe européenne, parce qu'il était à sa manière, lui aussi, résolument européen. Mais il voulait suivre un autre chemin. Ce n'est pas ce qui a été fait, parce que la suite a été écrite par des gens qui étaient des partisans de l'Europe post-nationale, de l'Europe réduite à un marché, et d'une Europe dominée par un principe unique, le principe de la concurrence, posé par l'acte unique, négocié en 85, ratifié en 1987, et d'où vont découler toutes les directives de la Commission européenne, qui prévoit par exemple la libération des mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais vis-à-vis du reste du monde, donc qui installe le capitalisme financier à l'échelle mondiale, comme de nombreux économistes américains notamment l'ont clairement démontré. Donc ce choix est évidemment un choix majeur, nous en ressentons aujourd'hui les conséquences, mais pour comprendre ce qui arrive, il ne faut pas se tourner simplement contre le président Macron. Lui, le président Macron est arrivé il y a 18 mois. Même pas.
Comment on en ressent aujourd'hui les conséquences? Quels sont les symptômes de cela, les manifestations?
Ces conséquences sont la désindustrialisation de la France, l'accoutumance à un chômage de masse, le creusement des inégalités, la fracture territoriale de trop grandes régions, l'éloignement par rapport aux centres de décision, surtout s'ils ont été transférés à Bruxelles ou vers des juridictions qui échappent finalement au contrôle des citoyens. Donc les citoyens ont le sentiment que ils n'ont plus de levier sur lequel ils peuvent s'appuyer. D'où le discrédit de la représentation, que je déplore, parce que pour moi, la démocratie représentative reste celle qui permet le débat argumenté, le débat républicain, et je ne crois pas beaucoup au référendum d'initiative citoyenne. Une fois, de temps en temps, le référendum, ça peut avoir un sens, et je ne suis pas contre. Mais pour qu'une démocratie vive au quotidien, il faut le débat, il faut l'instruction, il faut la culture, il faut l'éducation, l'éducation civique que j'avais essayé de rétablir. Alors on trouve tout ça dans ce gros livre qui est la somme de ce que j'ai pensé et fait dans les différentes responsabilités qui ont été les miennes. Mais vous verrez qu'il y a quand même une continuité, une aspiration d'ensemble, dans laquelle, je l'espère, les jeunes générations pourront puiser pour réparer.
Parce que dans les mots que vous venez d'avoir, de tenir, Jean-Pierre Chevènement, c'est une sociologie du mouvement des Gilets jaunes que vous venez de nous indiquer. Le RIC, ils y seraient pour une partie d'entre eux favorables, ils le souhaitent. Pour vous, ce déficit démocratique, c'est pas avec un référendum d'initiative citoyenne qu'on y répondra. Ça marche pas. C'est pas ce type d'outil démocratique qu'il faudrait mettre en place pour tenter de renouer le dialogue.
Il faut refaire une démocratie de citoyens. Ça prend du temps et il faut aussi remédier à cette fracture européenne qui fait que l'Europe est aujourd'hui tellement lointaine qu'elle paraît presque hostile à beaucoup de citoyens. Donc on ne va pas sortir de cette crise qui a des racines tellement anciennes en l'espace de quelques semaines et de quelques mois. Même si le président de la République peut annoncer quelques décisions, par exemple la réindexation sur l'inflation des petites pensions de retraite, ce serait une mesure, je crois, très largement saluée par presque la totalité de nos concitoyens. Même s'il peut annoncer un certain nombre de mesures, pas forcément tout de suite, mais sur un laps de temps quand même relativement court, peut-être donner la parole au peuple français sur un certain nombre de sujets qui font problème. Mais est-ce qu'un référendum ne sera pas inévitablement instrumenté ? Alors il faut peut-être penser à des questions multiples. Disons que c'est surtout un travail de fond, un travail de réorientation, c'est le choix d'une autre politique, je dirais, une sortie de ce cycle néolibéral dont le président de la République est conscient qu'il tire à sa fin. Il le dit dans ses vœux de nouvelle année, 31 décembre dernier, il dit que le capitalisme financier est proche de sa fin, que c'est un système qui a fait son temps. Alors il faut construire autre chose. Au moins, il est conscient de cela.
Et il l'entendra probablement aussi ce soir, puisqu'il a invité à l'Élysée une soixantaine de chercheurs, d'intellectuels, pour débattre avec eux des grands enjeux sur ce constat qui commence à être partagé par un certain nombre aussi de chercheurs. Le mouvement des Gilets jaunes qui se revendique de 1789, hein, vous y revenez aussi dans cet ouvrage sur la Révolution française, qui fut à vos yeux d'abord et avant tout une révolution conceptuelle et peut-être même spirituelle qui a mis la souveraineté populaire au premier plan. Alors comment ça peut se traduire par un meilleur partage de la décision, de l'exercice de la souveraineté, en attendant dans la rue, samedi, à Paris notamment, l'acte 18 a montré des violences qui ont suscité aussi une réaction immédiate ou un peu tardive, même non, plutôt du gouvernement. Réunion de crise ce matin, l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes, est-il interpellé par cette situation-là? Je vous propose d'abord d'écouter les mots du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui reconnaissait dans le dispositif de sécurité samedi à Paris un échec.
Il y a eu manifestement des dysfonctionnements. Encore une fois, le travail des forces de l'ordre n'est absolument pas remis en cause. Il faut examiner ce qu'il en était de la chaîne de commandement, ce qu'il en était de leur positionnement, des instructions, à quel moment elles ont été données, comment la manœuvre a été menée. Écoutez, c'est toute la chaîne de commandement qui est examinée. C'est l'ensemble du
dysfonctionnement. La hiérarchie en est comptable. Vous êtes d'accord?
La hiérarchie
en est
comptable.
Vous êtes un fonctionnaire, vous êtes un haut fonctionnaire.
J'ai été haut fonctionnaire. Pardon. Je sais ce que c'est.
Vous savez ce que c'est jusqu'au préfet de police?
Y compris l'ensemble des échelons intermédiaires. On va regarder l'ensemble.
Alors échec ou pas, Jean-Pierre Chevènement, quand vous voyez les images de ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, notamment à Paris, qu'est-ce que ça fait réagir en vous, plutôt l'homme de gauche sensible aux inégalités actuelles ou l'ancien ministre de l'Intérieur sensible?
Mais on peut être les deux, hein.
À l'ordre et à la sécurité.
Disons que je suis quand même très sensible à la violence qui s'est manifestée contre cette fourgonnette de la gendarmerie nationale où on voit des black blocs qui sont des gens extrêmement violents qui se précipitent littéralement à l'assaut de cette fourgonnette. Donc cette violence, je la vois venir depuis longtemps dans différentes manifestations. On a vu des policiers qui ont été qui ont failli être brûlés dans leur véhicule il y a un an ou deux. Disons que cette violence est inadmissible, elle doit être combattue. Je ne comprends pas très bien pourquoi ces black blocs n'ont pas été identifiés, pourquoi il n'y a pas déjà un fichier qui permettrait de les neutraliser avant ces manifestations où ils se greffent et en détournent le sens. Enfin, je veux le croire. Donc, il y a sûrement un problème de moyens. Il y a un problème car les policiers sont épuisés. Il y a un problème de doctrine. Est-ce qu'il ne fallait pas défendre les biens aussi, et pas seulement les personnes? Faut-il ne pas aller au contact? C'est une question qu'on peut se poser. Je dirais qu'elle n'a pas de réponse simple. Je vois qu'un avocat, M. Mignard, a proposé d'interdire temporairement, bien entendu, les Champs-Élysées à des manifestations. Je me demande si, dans l'immédiat, ce n'est pas la solution raisonnable, en attendant qu'on ait revu les paramètres de l'action policière, car le maintien de l'ordre ne se fait pas de la même manière à toutes les époques. Vous m'avez interrogé sur mes fonctions de ministre de l'Intérieur, moi j'avais inventé la police de proximité en 1999. Monsieur Sarkozy l'a dissoute en 2003. Et en 2005, on a vu les premiers incidents violents dans certaines banlieues. Et puis on a vu se développer cette très grande violence anti-policière à laquelle les policiers sont évidemment obligés de répondre. C'est quelque chose que je ne peux pas admettre au fond de moi-même. Je ne pense pas que la République puisse accepter cela.
Ils répondent, mais peut-être pas la précéder. Il y a une demande d'enquête qui a été émise par l'ONU, par la voix de Madame Bachelet, pour usage abusif de la force au cours de certaines de ces manifestations. Vous le savez, la question de l'usage du LBD est aussi en question. Le travail mené par un journaliste, David Dufresne, qui raconte et montre la multiplication des violences policières qui a pu aussi se dérouler dans ces manifestations. Il faut condamner cet usage abusif de la force là aussi. Et il faut absolument que cet usage de la force reste proportionnel, à vos yeux, Jean-Pierre Chevènement, pour que la police reste crédible dans son action du maintien ?
Bien sûr, la réponse doit toujours être proportionnée. Et certains tirs doivent être autorisés qu'en cas de légitime défense, bien évidemment. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas renverser totalement les responsabilités. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Si on met l'accent sur les violences policières, enfin ce qu'on appelle les violences policières, on risque d'oublier que à l'origine, il y a quand même des agressions insoutenables avec des cocktails Molotov, avec des jets non seulement de pavés mais de barres de fer. Enfin, vous avez pu voir comme moi à la télévision des manifestants, des gilets jaunes, il faut bien le reconnaître, puisqu'ils portaient ce gilet, portaient des grilles de fer à s'en servir comme projectiles, arracher les clôtures des Tuileries en se blessant eux-mêmes. Donc il faut bien voir que si on retire aux policiers le flashball, ce qui a été fait, on leur a donné les LBD. Et si on retire les LBD, qu'est-ce qu'on met à la place ? Il faut quand même se poser la question. Et naturellement, le LBD doit être utilisé de manière très précautionneuse, en visant les jambes, hein, et non pas le visage.
On va en sortir de cette situation, pour vous, Jean-Pierre Chevènement, sur le temps long.
Écoutez, moi je reste légitimiste. Bien entendu, le président de la République est élu pour 5 ans. Il faut sortir de cette situation. Il va faire sans doute un certain nombre d'annonces. Et s'agissant du maintien de l'ordre, je ne doute pas une seconde que les forces de l'ordre finiront par avoir le dernier mot. Je dirais que la France n'est pas à la merci d'un millier de black box. Nous avons la possibilité de les identifier, de les arrêter, y compris de manière préventive, sous le contrôle du juge. Mais tout cela n'est pas hors de portée. Donc je pense que ce qui est important, c'est de définir un projet politique qui réponde à la situation dans laquelle nous sommes. Et il faut que le président de la République mesure bien que ce qui était son intention initiale débouche aujourd'hui sur une sorte d'impasse du fait du contexte européen. Voyez-vous, on prévoit une croissance de 1% à l'échelle de la zone euro l'an prochain. Alors, quelle est la réponse au niveau de la zone euro ? Est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre une politique de relance contracyclique ?
À quelques semaines, justement, de l'élection européenne, quand vous entendez la majorité des partis de gauche jusqu'au centre dire plus d'Europe, fédéralisme, Europe sociale, vous n'y croyez pas ? Vous dites la France, de toute façon, continue dans sa stratégie suicidaire, celle entamée en 83, telle qu'on l'évoquait tout à l'heure ?
Je pense qu'un redressement est nécessaire. Il a commencé sur certains points. Le problème des travailleurs détachés reçu un début de solution. Mais tout reste à faire. Pour moi, le travail ne peut pas en rester là. Et les éléments de crise qui existaient avant l'élection d'Emmanuel Macron existent toujours. Je pense que ce n'est pas parce que l'Allemagne a raté l'occasion qui lui était offerte qu'il faut se désespérer. Il y a un rythme européen qui est beaucoup trop lent. Le rythme des institutions européennes ne va pas. Il y a une remise en cause qui devrait être possible à travers cette conférence européenne qu'a annoncé le président de la République. Mais naturellement, il faut la volonté politique. Et c'est cette volonté politique que j'interroge.
Vous disiez à l'instant que vous êtes légitimiste. Vous l'avez toujours été. Sauf que parfois, vous vous êtes aussi laissé guider par votre colère ou votre indignation. Ça a été cette colère souvent aussi le moteur de votre action, de votre engagement. Pour preuve, vos trois démissions de trois gouvernements différents. La démission de 1983, vous êtes alors ministre de la Recherche et de l'Industrie et vous vous opposez au tournant de la rigueur, à l'infléchissement libéral. Et vous dites cette phrase restée célèbre, un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. 91, rebelote, deuxième démission pour vous opposer à la première guerre du Golfe. Et vous écrivez dans cet ouvrage, Jean-Pierre Chevènement, Passion de la France, qui paraît chez Robert Laffont, j'ai voulu dans l'intérêt de la France et de l'humanité me désolidariser de cette guerre inutile et disproportionnée, espérant ainsi sauvegarder un meilleur avenir dans la relation entre l'Orient et l'Occident. 2000, enfin, troisième démission pour vous opposer à la reconnaissance du mouvement nationaliste corse. Il y aura aussi votre rupture avec le Parti Socialiste en 93 sur fond de traité de Maastricht, un référendum de 92 qui est pour vous l'apogée des illusions parmi lesquelles la principale concerne la monnaie unique dont le vice constitutif n'apparaîtra que 20 ans plus tard, apogée aussi du combat mené par François Mitterrand pour imposer l'Europe comme paradigme de substitution au dessein qu'il avait porté au pouvoir en 1981. La colère comme moteur de l'engagement, c'est essentiel.
Eh bien oui, cette indignation pour moi reste intacte parce que je me sens comptable des engagements que j'ai pris vis-à-vis des militants, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la population de Belfort, des ouvriers de l'Alstom. Je me sens comptable à travers le temps vis-à-vis d'eux. Je ne veux pas leur manquer et je préférerais que les choses soient nettes par rapport à la désindustrialisation, par rapport à la guerre du Golfe et à la montée de l'islamisme radical que je présentais, que je voyais venir, par rapport au démantèlement de l'État. Regardez en Corse, ce sont les indépendantistes qui sont maintenant aux affaires. Et puis il n'y a pas que la Corse, il y a, je dirais, ce qu'on appelle la fracture territoriale, il y a à l'époque le projet de constitution européenne qui a été rejetée par le peuple français. Donc je ne me suis pas identifié à tous ces choix politiques. Il vaut mieux être clair, être net. Hein. L'histoire ensuite jugera. Hein. Disons que j'essaye de donner à mon parcours une clarté.
Aujourd'hui, quelle est votre famille politique, Jean-Pierre Chevènement ?
Moi, je suis socialiste d'origine. Mes parents votaient socialiste. Et j'ai moi-même été un des refondateurs du Parti Socialiste. Maintenant, à partir du moment où le Parti Socialiste a versé dans le social-libéralisme et dans un européisme sans rivage, je me suis écarté. Et j'ai ressenti que la République était ma vraie famille. L'exigence républicaine, c'est-à-dire une exigence très forte, hein. Je n'entends pas par république simplement les élections. C'est une éthique, c'est un comportement, c'est une façon d'agir. Disons que si je pouvais contribuer à reconstruire quelque chose, je le ferais. Mais pour le moment, je ne vois pas d'alternative à Emmanuel Macron, ni à droite, ni à gauche. Je n'épilogue pas chacun.
L'alternative, c'est le ni droite, ni gauche. Ça reste ça pour l'instant.
Alors c'est pour moi au-dessus de la droite et au-dessus de la gauche, hein, une exigence supérieure.
Parti socialiste dont vous écrivez quand même qu'il ressemble aujourd'hui à un wagon couché sur le ballast dont on ne voit pas quelle locomotive pourrait le remettre sur les rails.
Oui, je ne pense pas que Raphaël Glucksmann, très sympathique au demeurant, soit la locomotive dont je parle.
Eh bien on est bien parti, enfin vous surtout. Pour retrouver une famille dans tout ça. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu évoquer certains souvenirs, des fragments aussi de ce parcours, de cette vie politique sur 50 ans. Vous rassemblez tout cela dans des textes et des discours. Jean-Pierre Chevènement, Passion de la France, l'ouvrage vient de paraître à la collection Bouquins chez Robert Laffont. Merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission.